Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, ce ne sera pas un RSA jeune. La nouvelle aide pour les moins de 26 ans sans emploi ni études présentée ce matin. 500 euros par mois contre des heures de formation. Combien de personnes concernées, monsieur le Premier ministre ?
Nous nous fixons l'objectif d'en accompagner au moins 400 000 en 2022 grâce au contrat d'engagement jeune.
Détail sur ce contrat dans quelques minutes. À la conférence climat, deux engagements importants seront-ils tenus ? Une centaine de pays promettent d'enrayer la déforestation et de réduire d'un tiers leurs émissions de méthane, deuxième gaz à effet de serre. Va-t-on sortir de la crise à Calais ? Trois militants en grève de la faim pour le 23e jour contre le démantèlement des camps de fortune. Le médiateur Didier Lesky fait des propositions. Il sera avec nous. Dans l'actualité encore, deux grands acteurs américains du numérique quittent la Chine, Yahoo et le jeu vidéo au Fortnite. Lille en Ligue des champions de football ce soir face à Séville. Il est temps de gagner. Et ce village où le maire veut enfin donner des noms officiels aux rues, cela fait débat. Reportage dans une seconde. Vos rendez-vous dans le 13-14. Notre invité à 13h30 est un jeune homme hors du commun. Il a 21 ans. À 7 ans, il a été amputé des 4 membres à cause d'une méningite. Cela ne l'a pas empêché de devenir un nageur émérite, médaillé d'argent au championnat du monde. Et il se lance maintenant dans la traversée à la nage du lac Titicaca. En plus de tout cela, il a sa chaîne YouTube où il parle de manière très directe du handicap. Et il tourne dans Plus belle la vie. Mais oui, Théo Curin est avec nous à 13h30. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Comment vivre ou combien avec un handicap, Théo Curin donne l'exemple. Le feuilleton, dans un tiers lieu, ces espaces qui permettent de redynamiser les villages, le vif de l'histoire, la rivalité franco-britannique sur les mers en pleine crise de la pêche, et puis c'est une chanson, All Delighted People de Soufiane Stevens. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et commençons ce journal sur le plateau de Millevaches en Creuse pour une histoire qui raconte plein de petites évolutions de société. Particularité du village de Faux-la-Montagne, 429 habitants. Il n'y a pas de nom de rue, pas la peine. Chacun sait où l'autre habite. Mais à l'heure du e-commerce et des facteurs tournants qui ne connaissent pas comme autrefois chaque recoin du village, est-ce tenable ? Le maire veut changer les choses. Une partie de ses administrés rechigne. Julie Munch.
Les noms de rue à Faux-la-Montagne, c'est dans la tête, pas sur les murs.
Bah là, c'est la rue de derrière qui commence. Moi, je l'appelle la rue des vieilles dames aussi parce qu'il y a pas mal de vieilles dames qui habitent là, dans cette rue.
Les maisons aussi ont des petits noms. C'est toute une philosophie pour cette habitante.
Des fois, le facteur, il nous demande où habite un tel, du coup, on indique et tout. Moi, je trouve ça rigolo. Et puis, je trouve qu'on n'a pas besoin de s'urbaniser. Enfin, ça fait un peu urbain, je trouve, les noms de rue.
Un groupe d'opposants a même rédigé un courrier anonyme déposé dans certaines boîtes aux lettres. Il voit dans les noms de rue une manière d'encourager les livraisons de produits vendus sur Amazon dont ils ne veulent pas. Mais cette jeune femme qui vit depuis plusieurs années à Faux-la-Montagne ne comprend pas ce raisonnement.
Est-ce que vraiment on va embêter Amazon et Google si on donne des noms de rue à Faux-la-Montagne ? Je sais pas. Je pense qu'en effet pour les gens qui travaillent dans la livraison ça doit être assez compliqué et voilà, je pense que c'est déjà des boulots qui sont pas faciles et qui sont pas évidents donc je pense que peut-être que leur facilité un peu la vie, ce serait pas forcément du luxe.
Faciliter aussi l'intervention des secours selon la mère et du facteur qui a tendance à changer de plus en plus souvent, même si globalement le courrier arrive presque toujours à bon port.
Reportage Julie Munch, France Bleu Creuse. Ce n'est pas un RSA jeune, ce n'est pas un revenu sans condition et il concernera moins de personnes qu'initialement envisagées. Emmanuel Macron et Jean Castex ont présenté ce matin le contrat engagement jeune, 500 euros par mois pour les moins de 26 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois. Au moins 400 000 jeunes sont concernés, seront Matignon. En échange, ces personnes devront accomplir 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement vers l'emploi. Le président de la République a donné les premiers détails sur Facebook, puis le Premier ministre, dans une mission locale. Ces structures qui travaillent à l'insertion des jeunes, c'était à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Sur place, pour France Inter, Raphaël Delvolvé, Jean Castex était accompagné de 4 ministres, Raphaël.
Oui, le Premier ministre en équipe à la tête de ce pacte gouvernemental ce matin dans cette mission locale, Jean Castex a échangé avec des jeunes, notamment des bénéficiaires de la garantie jeune, le dispositif dont s'inspire directement ce nouveau contrat d'engagement. Ça commencera le 1er mars 2022, mais ça s'adresse, vous l'avez dit, à moitié moins de personnes qu'annoncées en juillet par le président Emmanuel Macron. Parlait cet été de plus d'un million de personnes. Jean Castex tout à l'heure.
1 million de jeunes environ sont aujourd'hui en France sans emploi, ni formation, ni en études. Si nous identifions, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui 500 000 jeunes en situation d'éloignement durable de l'emploi, nous nous fixons l'objectif d'en accompagner au moins 400 000 en 2022 grâce au contrat d'engagement jeune.
Voilà, le public concerné est donc finalement beaucoup plus ciblé. Le Premier ministre donne une justification conjoncturelle, notamment le succès du plan Un jeune, une solution annoncé à l'été 2020. C'était juste après sa prise de fonction.
Fin septembre 2021, dernier chiffre connu, le chômage des jeunes a retrouvé son niveau d'avant-crise, décembre 2019.
Et en coulisses, hein, ce dispositif d'aide à l'insertion des décrocheurs faisait surtout l'objet d'une bataille entre le ministère du Travail qui voulait l'étendre au maximum et Bercy qui voulait en limiter le coût, 550 millions d'euros par an. Voilà comment ce contrat d'engagement jeune est budgété dans le projet de loi de finances 2022.
Raphaël Delvolvé en direct de Vitry-sur-Seine pour France Inter avec Fabien Gosset. L'opposition de droite et d'extrême droite est hostile à l'annonce de ce matin. C'est du clientélisme électoral, par exemple pour Nicolas Bay et pour le Rassemblement National. Qu'en disent les associations et ceux qui travaillent avec les jeunes qui peinent à trouver un emploi ou une formation? Dites-nous cela, Laurent Kramer.
Un dispositif de plus, soulignent les associations, bien loin du revenu d'engagement qui devait toucher tous les jeunes de moins de 26 ans non diplômés, soit 1 500 000 jeunes au départ. Accompagnement renforcé jusqu'à une année pour accompagner les jeunes décrocheurs vers des dispositifs qui existent déjà. Certains jeunes ne resteront pas une année, souligne Matignon. Le but est justement de les accompagner vers une formation adaptée, vers l'école de la deuxième chance, pourquoi pas vers un contrat d'apprentissage, le temps que le jeune décrocheur trouve sa place. Le dispositif est trop limité dans le temps et dans les moyens accordés avec 500 millions d'euros sur la table, souligne Christophe Devis du collectif Alerte qui regroupe les associations luttant contre la pauvreté et l'exclusion.
Il faut absolument lever cet obstacle de la durée un an. Pour certains jeunes, c'est très bien, mais pour d'autres jeunes plus en difficulté, c'est très court. Il y avait l'idée de droit ouvert pour tous les jeunes en difficulté. C'est évidemment pas suffisant pour un accompagnement qualitatif pour toutes les personnes concernées. C'est là où on est très loin d'un droit universel. C'est bien la déception des associations que de ne pas voir consacrer cette idée de droit à l'accompagnement pour tous les jeunes.
Il s'agit donc pour les associations d'une garantie jeune légèrement renforcée. Le gouvernement promet de travailler avec le tissu associatif sportif, les associations de quartier pour précisément aller chercher ces jeunes décrocheurs, des jeunes décrocheurs en dehors des dispositifs qui ne viennent pas aujourd'hui spontanément dans les missions locales ou qui n'y restent pas suffisamment longtemps pour un accompagnement de qualité.
Voilà ce que l'on peut dire de ce dispositif, le contrat engagement jeune. En 5 questions, les détails, d'autres détails sur franceinter.fr. Deux petits jours de répit entre France et Grande-Bretagne à propos des licences attribuées aux pêcheurs français dans les eaux britanniques. La France menaçait de prendre des mesures de rétorsion contre les professionnels britanniques. Dès aujourd'hui, menace reportée 2 jours. Une réunion de négociation se tiendra jeudi à Paris. Pour les pêcheurs français, il manque toujours des dizaines de licences. Les deux pays ne sont pas d'accord sur les conditions d'attribution. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
En direct avec Christophe Papon de Cherbourg dans la Manche, l'un des ports concernés de près par cette dispute. Qu'est-ce qui bloque exactement, Rémi ?
Eh bien, ce qui coince, ce sont les conditions exigées par le Royaume-Uni pour attribuer ses licences aux bateaux habitués des eaux britanniques. Paris demande des assouplissements. Pour l'instant, difficile de savoir précisément combien ont obtenu une réponse positive. Le ministère de la Mer organisait d'ailleurs ce matin une visioconférence avec les comités des pêches pour faire le point sur les négociations en cours. Ici, en Normandie, le comité régional des pêches évoque une vingtaine de navires encore en attente. Beaucoup d'entre eux naviguent habituellement dans les eaux de Jersey. Et l'île anglo-normande demande de prouver une antériorité de pêche dans ces eaux, 11 jours au moins par an depuis 2017. Mais certains pêcheurs français expliquent qu'ils ne sont pas équipés des dispositifs de traçage électronique exigés. Autre problème, ceux qui ont investi dans un nouveau navire et qui n'ont donc pas d'historique. De son côté, le gouvernement de l'île assure être souple. Il vient d'annoncer l'octroi de 49 licences supplémentaires, des licences provisoires toutefois jusqu'au 31 janvier. Bref, rien n'est réglé ici en Normandie. Le comité régional confie reprendre point par point la liste des bateaux fournis par Jersey, car pour l'instant, elle n'est pas très claire.
Rémi Brancato en direct de Cherbourg avec Christophe Papon pour France Inter. À la conférence climat de Glasgow, deuxième journée avec les chefs d'État et de gouvernement. Parmi les engagements pris ou attendus depuis hier, une centaine de pays qui représentent 85% de la forêt mondiale promettent d'enrayer la déforestation d'ici 2030. La Russie et sa taïga, le Brésil, pays de l'Amazonie, la forêt boréale du Canada, la forêt tropicale du Congo, autant de puits à carbone. L'engagement implique 16,5 milliards d'euros d'argent public et privé pour notamment restaurer les espaces dégradés. Autre engagement qui concerne le méthane, deuxième gaz le plus émetteur d'effet de serre après le CO2, le méthane et les gaz émis par l'élevage intensif et les fuites de pipeline. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter à Glasgow avec Martin Troadec. À nouveau, une centaine de pays, un peu moins, s'engagent à réduire leurs émissions de méthane d'un tiers d'ici à 2030, là encore.
Oui, car le méthane a une durée de vie plus courte que le CO2 dans l'atmosphère, une douzaine d'années, mais un pouvoir réchauffant 80 fois supérieur sur un laps de temps de 20 ans. 90 pays s'engagent donc à réduire les émissions de méthane de 30% en 10 ans, comme l'Arabie Saoudite, le Japon, la Nouvelle-Zélande. Une initiative lancée par l'Europe et les États-Unis. Hier, le président américain Joe Biden a appelé les autres pays à signer.
Avec l'Europe, nous lançons un pacte global sur le méthane, l'un des gaz à effet de serre les plus puissants. J'encourage chaque nation à signer. C'est l'une des solutions les plus rapides et efficaces pour réduire le réchauffement à court terme.
Le méthane est émis par les vaches qui rotent, par la décomposition des déchets, mais aussi par les fuites sur les pipelines. Or, ces fuites sont relativement faciles à colmater, explique Kim O'Dowd. Elle travaille pour une ONG basée à Londres, l'agence d'investigation environnementale, qui fait du lobbying pour réduire les émissions de méthane dans l'industrie.
Les émissions de méthane dans le secteur de l'énergie, elles viennent tout simplement de fuites, en fait, sur les pipelines, mais aussi sur des anciennes mines de charbon notamment qui continuent en fait à émettre des fuites de méthane. Ce sont des choses qui sont facilement solvables. En fait, il suffit donc de détecter ces fuites et de les reboucher. Et donc c'est des choses qui sont déjà faites par les industries aujourd'hui, mais il n'y a aucune législation sur le sujet. On voit toujours qu'il y a beaucoup plus de fuites que ce qui est rapporté par les industries.
Pour l'instant, deux gros émetteurs, la Russie et la Chine, n'ont pas rejoint ce pacte méthane qui sera lancé en grande pompe en début d'après-midi à la COP26.
Sandy Dauphin en direct de Glasgow. Et alors que les participants à la COP26 luttent contre le dérèglement climatique, eh bien pendant ce temps, la Chine fait tourner ses mines de charbon pour atténuer la hausse du prix de l'électricité. Plus d'un million de tonnes de charbon supplémentaires par jour. France Inter à Pékin, Dominique André.
Depuis la mi-octobre, la Chine produit quotidiennement 11,5 millions de tonnes de charbon. La deuxième puissance mondiale possède environ un millier de centrales électriques à charbon, soit plus de la moitié du parc mondial. Ces derniers mois, face à la flambée du prix des matières premières, les centrales ont tourné au ralenti, ce qui a provoqué des coupures d'électricité dans le pays. Le gouvernement a décidé de relancer la production en rouvrant des mines. Li Shuo de Greenpeace Asie alerte une fois de plus sur la nécessité de diminuer cette dépendance au charbon.
La Chine doit assurer les besoins de la population, comme par exemple le chauffage en ce moment. C'est un défi difficile pour les provinces productrices de charbon qui, depuis des décennies, portent la consommation et la croissance économique. Le gouvernement doit leur apporter des aides. On a besoin d'une politique et d'une discussion nationale pour réussir cette transition énergétique.
Li Shuo se désole des dégâts environnementaux.
En tant que pays, nous avons atteint un point clé. On voit de plus en plus des événements climatique sévère, on doit reconsidérer l'impact sur l'environnement avec des décisions à prendre dans le secteur du charbon.
La Chine est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies propres, mais on ne sait toujours pas comment sera remplacé le charbon pour réussir pleinement la transition énergétique. Pékin, Dominique André, France Inter.
Autre pays suivi de près à Glasgow, l'Inde s'engage à la neutralité carbone en 2070, soit 20 ans après beaucoup de pays, mais c'est déjà un geste pour le troisième plus gros émetteur de CO2 au monde qui refusait jusque-là d'annoncer le moindre objectif. On parlait de la pêche il y a un instant. Le ton semble s'apaiser entre France et Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni souhaite parvenir à une solution consensuelle avec la France, dit à l'instant le porte-parole du Premier ministre britannique. La ville de Calais va-t-elle sortir de la période de crise, une de plus liée au sort des migrants qui cherchent à passer en Angleterre juste en face? Pour le 23e jour, trois militants, dont un prêtre, soutenus par des dizaines d'associations, sont en grève de la faim pour demander l'arrêt des démantèlements des camps de fortune pendant l'hiver. Ils dénoncent un traitement indigne. Le gouvernement, lui, redoute la reconstitution de la jungle, la lande de Calais, où 10 000 personnes vivaient jusqu'à il y a 5 ans dans des conditions elles aussi indignes. La semaine dernière, un médiateur est arrivé sur place, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour Didier Lesky.
Bonjour.
Et vous faites une série de propositions pour sortir de cette nouvelle phase de crise. D'abord, de combien de migrants parle-t-on, Didier Lesky ? 1 000 000 environ ?
Oui, 1 000 000 environ, on le sait à partir du nombre de repas qui sont aujourd'hui distribués par des associations qui sont subventionnées par l'État. Il y a tous les matins à la fois un déjeuner et puis un petit déjeuner pardon et un déjeuner qui est donné, et il y a à peu près 900 repas qui sont comme ça distribués tous les jours. Il y a en plus les douches vers lesquelles les personnes sont tous les jours amenées pour aussi se laver.
Alors votre proposition, c'est que ceux dont les tentes sont démontées soient systématiquement relogés, pas forcément à Calais, voire pas à Calais.
Alors, il s'agit d'hébergements et pas de logements.
Oui.
C'est des hébergements et des hébergements qui sont situés essentiellement dans le Pas-de-Calais ou dans la région des Hauts-de-France, mais pas à Calais. Parce que le problème de Calais, c'est que la situation ici, elle ne satisfait qu'en réalité que les passeurs. Et donc, il ne faut pas que Calais redevienne, comme cela a été, une base à partir de laquelle les passeurs opèrent avec une sorte de campement indigne et que même les associations à l'époque souhaitaient voir démanteler, et c'est ce qui avait été fait.
Alors les associations dénoncent aussi la manière dont ces campements sont démantelés, saisis des faits personnels, pas une minute pour se retourner. Est-ce que vous faites des propositions aussi à ce sujet ?
Oui, bien sûr. Je pense que il y a là la nécessité de laisser les personnes récupérer leurs effets personnels et donc de prévenir en amont, la veille ou l'avant-veille, les personnes qu'il y aura une opération de mise à l'abri et le jour même leur laisser trois quarts d'heure pour récupérer leurs affaires, y compris les tentes s'ils le souhaitent.
Je reviens sur la question de l'hébergement. 900 personnes, disiez-vous, il y a des hébergements disponibles dans le Pas-de-Calais ou dans les Hauts-de-France pour 900 personnes ?
Il y a des hébergements disponibles et d'autres qui vont être ouverts dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et tout l'enjeu, justement, est d'arriver à répartir, si vous voulez, la charge sociale de l'accueil de ces personnes au-delà de Calais, parce que les Calaisiens eux-mêmes n'ont pas ou ne peuvent pas tout le temps être l'endroit où les personnes s'accumulent. Ça pose à la fin des problèmes importants.
Donc l'ouverture de nouvelles places d'hébergement, c'est aussi un engagement de votre part, Didier Lesky ?
C'est à travers moi, d'abord un engagement de l'État, puisque moi je fais une médiation et donc à chaque fois je rencontre des discussions et j'obtiens des réponses. Et oui, il y a cet engagement-là.
Vous avez rencontré en fin de matinée les grévistes de la faim. J'imagine que vous leur avez parlé de ces propositions. Quelle réaction ?
Alors, je leur ai laissé les propositions formulées par écrit et je revois tout le monde avec les trois grévistes de la faim et leurs les principaux soutiens associatifs à 14h30, et j'espère que la discussion permettra d'aboutir à reconnaître qu'on a on va mettre en place quelque chose qui ne s'est jamais fait à Calais. Reste ce point de divergence, mais je crois qu'il est compréhensible. On ne peut pas laisser des campements dans Calais comme cela, parce qu'on risque d'avoir la reconstitution de la lande de Calais, et personne ne le souhaite en réalité.
Justement, des migrants qui refusent d'être éloignés de Calais, leur objectif c'est de passer de l'autre côté. Est-ce que vous pensez pouvoir les convaincre aussi de présenter une demande d'asile en France ?
Alors, oui, on va leur proposer de déposer une demande d'asile en France. Ce qu'on leur propose, c'est un hébergement. Oui. Il n'y a pas un droit absolu à rester à Calais dans n'importe quelle condition. Oui. Dès lors, en particulier, quand on vous propose des hébergements. L'idée qu'il faut absolument rester à Calais et qu'à partir de là, on refuse les hébergements, naturellement, les personnes ont le droit de les refuser. Mais la discussion devient tout autre dès lors que l'État s'engage à les mettre dans des conditions qu'ils méritent, comme toute personne humaine.
Et on verra les réactions et des grévistes et des associations qui les soutiennent dans les heures à venir. Merci Didier Lesky d'avoir pris quelques minutes pour France Inter. La fille aînée de Mireille Knoll témoignait ce matin, le fils aîné de Mireille Knoll témoignait ce matin au procès du meurtre de sa maman. C'est le 5e jour d'audience à la cour d'assises de Paris. Mireille Knoll, cette dame juive de 85 ans, tuée de 11 coups de couteau, partiellement brûlée dans son appartement parisien en mars 2018. Deux hommes hommes sont dans le box, accusés de meurtre à caractère antisémite. Ils continuent de nier et de s'accuser l'un l'autre. Mathilde Vinceneuve, vous êtes en direct de la cour d'assises. Alan Knoll a croisé l'un des accusés le jour du meurtre. Il est le dernier membre de la famille à avoir vu sa mère vivante.
À la barre, en costume sombre, Alan Knoll parle de ses cauchemars et de la violence de la mort de sa mère. L'autre jour, vous avez montré des photos de son corps carbonisé. Elle n'avait plus de nez, plus de joues. Je ne voudrais pas que vous pensiez que ma mère n'avait pas de visage. Il montre à la cour un portrait au fusain de la vieille dame. Et puis il raconte le jour du meurtre, quand il a croisé l'accusé Yassine Mioub dans le hall d'immeuble. Il m'attendait, il m'a dit « Je suis l'ami de votre mère, je sors de prison ». C'est ensemble qu'ils rentrent dans l'appartement. Alan Knoll raconte que l'accusé se servait des rasades de Porto sans demander l'autorisation, qu'il parlait à sa mère de l'extrême droite, de la bonne situation des Juifs. « J'étais très mal à l'aise », dit-il. La défense souligne que c'est la première fois qu'il rapporte ses propos. Alan Knoll, lui, se souvient d'avoir demandé en yiddish à sa mère si elle voulait qu'il fasse quelque chose. « Elle m'a souri et je suis partie. J'ai ce sentiment maintenant. » Il s'arrête, marque un long silence. « Je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas pu la protéger. »
Mathilde Vinceneuve en direct de la cour d'assises de Paris pour France Inter. L'actualité judiciaire, c'est aussi au tribunal correctionnel de Paris cet après-midi. L'audience au procès des sondages de l'Élysée, Nicolas Sarkozy y est entendu comme témoin. Est-ce un contrôle qui s'est très mal passé ou un acte terroriste? La nuit dernière, gare Saint-Lazare à Paris, un homme menace des agents de la sûreté ferroviaire avec un couteau en criant à la Ouagbar. Ils ont ouvert le feu et l'ont grièvement blessé. À ce stade, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi des faits.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
La santé de la reine d'Angleterre suscitait quelques inquiétudes ces derniers jours. Ses médecins lui ont conseillé du repos au château de Windsor. Mais à 95 ans, elle a encore bon pied, bon œil. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Une vidéo et une photo le prouvent, Richard.
Oui, d'abord, elle conduit. Elle a été photographiée hier au volant de sa Jaguar verte à proximité du château de Windsor, où elle réside actuellement, foulard et lunettes de soleil, mais pas de doute, c'était bien elle. Et puis, on l'a vu dans une vidéo enregistrée s'adresser au chef d'État présent pour l'ouverture de la COP à Glasgow, tenue verte de circonstance. Au centre de l'image, une photo de son défunt mari, le prince Philippe, fervent défenseur de la nature, au milieu d'une nuée de papillons. Elle lui rend un hommage rare et salue l'engagement dans ce domaine de son fils, le prince Charles, et de son petit-fils, le prince William. Elle prononce aussi ces mots.
Bien sûr, ceux qui sont ici aujourd'hui ne profiteront pas tous du bénéfice de ces actions. Aucun d'entre nous ne vivra éternellement. Mais nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants et ceux qui suivront leurs traces.
Évidemment, dit par une dame de 95 ans, ses propos sonnent comme un testament, mais elle ne va pas stopper là son règne. Son repos forcé s'achève le 13 novembre soir. Elle a déjà fait savoir qu'elle avait la ferme intention d'assister à une cérémonie le 14 à Londres.
Richard Place, correspondant de France Inter en direct de Londres, en Chine. Un jeu vidéo emblématique et mondialement populaire, Fortnite, est appelé à disparaître des écrans. Entre nationalisme, protection de la santé des enfants et respect des règles anti-concurrence, le régime de Pékin met la pression sur tous les grands acteurs du numérique. Alors extinction des feux pour Fortnite dans 2 semaines, annonce l'éditeur américain du jeu, Olivier Bénis.
Oui, pour résumer, on peut dire que Fortnite avait trempé un orteil dans la piscine chinoise, mais trouve finalement que l'eau est un peu trop froide pour y plonger. Son éditeur Epic Games avait lancé en 2018 des serveurs en Chine où Fortnite était toujours en version bêta de test, contrairement au reste du monde. Une version d'ailleurs très éloignée de l'original, car pour avoir le droit d'exister en Chine, le jeu devait subir des modifications spécifiques et régulières, donc du travail et de l'argent dépensé en plus. Disparition de certains visuels, de certains modes de jeu, réécriture même de son univers. En Chine, le scénario officiel évoque ainsi une simulation avec des hologrammes où personne ne meurt vraiment. Mais ce qui a sans doute achevé de convaincre Epic Games d'abandonner le marché chinois, c'est que les achats en jeu avec de l'argent réel y sont interdits. Or, c'est la principale source de revenus de Fortnite, puisque le jeu en lui-même est gratuit. Ses portes, tout juste entrouvertes, se fermeront donc aux joueurs chinois le 15 novembre prochain.
Il ne restera que le néant.
Je sais pas s'il restera que le néant, mais en tout cas un autre acteur américain du numérique quitte la Chine. Lui aussi, c'est Yahoo, le moteur de recherche, qui annonce que ses services ne sont plus accessibles depuis la Chine continentale depuis hier. Yahoo justifie cette décision en citant l'environnement commercial et juridique de plus en plus difficile en Chine. Une victoire serait la bienvenue ce soir à Séville pour Lille en Ligue des champions de football. Quatrième journée pour le champion de France en titre qui n'a récolté que 2 points jusque-là. L'adversaire du soir est un des bons d'Europe, le FC Séville. La soirée peut être jolie dans cette ville qui aime beaucoup le ballon, Alexandre Vaux.
Déjà parce que l'Espagne vibre pour le football beaucoup plus qu'en France, assure Aldrin. Comme on dit en Espagne, on a le foot dans le sang. Tout le monde supporte une équipe, dans chaque région. Mais ici, à Séville, la ville est fière d'avoir non pas un, mais 2 clubs en haut de l'affiche. Le FC Séville, adversaire de Lille, et le Betis. Une rivalité viscérale depuis toujours, explique Irène.
Je supporterai le FC Séville jusqu'à ma mort. Déjà parce que je vis face au stade et parce que c'est la tradition. Tu supportes la même équipe que ta famille. Séville et le Betis sont rivaux, ce sont des matchs à haut risque.
Un match dimanche, beaucoup plus important donc que celui de ce soir, d'autant qu'au classement du championnat espagnol, le FC Séville est actuellement 3e, le Betis juste derrière, 5e. Quel est le match le plus important de la semaine pour vous ?
Le derby, peu importe qu'on perde un autre match.
Je ne savais même pas qu'il y avait un match ce soir. Est-ce que vous connaissez Lille ?
Je connais quelques grands clubs, mais pas celui-ci.
Preuve de ce faible engouement, le stade de 43 000 places est loin d'afficher complet. Environ 25 000 personnes attendues ce soir, dont près de 500 Lillois.
Et le coup d'envoi est à 21h. Demain, le PSG joue à Leipzig sans Messi, touché à une cuisse et un genou. Elle vit à Los Angeles, mais c'est une des vedettes françaises de l'art contemporain. Elle a 40 ans. Claire Tabouret expose en ce moment dans 3 lieux différents à Paris, le musée Picasso et 2 galeries, Almine Reich et Galerie Perrotin. Des nouvelles œuvres, sculptures, céramiques, peintures. C'est l'occasion, Isabelle Pasquier, de découvrir cet artiste à la touche singulière.
Repérée par François Pinault il y a 8 ans, Claire Tabouret séduit plus les musées américains que les Français. Dommage, car ces toiles ont une force qui vous laisse captif. Cette force, c'est la présence humaine, la présence prégnante de ces visages d'enfants qui ne le sont déjà plus et qui nous fixent. À la galerie Almine Reich, ces toiles saisissent l'embarras de ces corps de filles pré-ado. La touche colorée est comme voilée d'étrangeté et de nostalgie. Avec ses 40 ans très juvéniles, Claire Tabouret capte le passage de l'enfance à l'âge adulte.
Ce sujet que j'ai souvent traité, de ce rapport au groupe, du langage du corps, le rapport à l'enfance, à l'adolescence, au corps qui change. Cette fois-ci, vraiment l'idée d'un corps arrêté, d'un corps en attente.
À la galerie Perrotin, d'immenses paysages aux couleurs pop acidulées que Claire Tabouret a peint sur des tissus de fourrure acrylique.
Ce travail, il a été conçu durant la pandémie, avec beaucoup de temps d'isolation, de temps à l'intérieur. Et paradoxalement, c'est là où je me mets à peindre l'extérieur, à peindre le paysage. Mais pour moi, c'est des paysages d'intérieur.
Dans la cour du musée Picasso, une sculpture, une fontaine humaine. C'est une jeune fille en maillot de bain. Son visage sous les permanentes larmes rafraîchissantes de la fontaine. Le regard lointain, comme pour nous montrer un invisible horizon.
Et Claire Tabouret est à découvrir à Paris jusqu'au 18 décembre. Dans un instant, la météo, puis l'invité du 13-14.
Vous avez remarqué, on ne parle plus de la grippe. Il est vrai qu'on a tous un peu autre chose en tête en ce moment. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est toujours aussi imprévisible. Et toujours aussi dangereuse pour les plus fragiles. Plus de 65 ans, personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, protégez-vous, vaccinez-vous aussi contre la grippe. La vaccination contre la grippe peut se faire en même temps que la vaccination contre le Covid-19. Parlez-en à un professionnel de santé.
L'assurance maladie.
La France mutualiste.
Quelle est la capitale du Bénin ?
Porto Novo.
Trop fort, papa. Et si je te demande un placement souple et fiscalement avantageux, qu'est-ce que tu me conseilles ?
La France mutualiste.
La France mutualiste ?
Oui, avec le plan d'épargne retraite de la France mutualiste, l'épargne est même disponible en cas de coup dur. Et c'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite.
T'as vraiment réponse à toi.
Vous aussi, découvrez tous les avantages du plan d'épargne retraite LFM Perform sur lafrancemutualiste.fr. La France mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille.
La France mutualiste.
Groupe La France mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance enregistré à l'ORIAS.
France Inter aime.
Je peux te poser une question ? C'est quoi ta vie sentimentale ?
Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit.
Les Olympiades, le nouveau film de Jacques Audiard.
Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense.
Cool.
3 filles et un garçon se rencontrent dans le quartier des Olympiades à Paris. Ils seront amis, parfois amants, souvent les deux.
C'est immature et égocentrique, Emily.
Les Olympiades de Jacques Audiard.
Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis super excitée, j'ai envie de crier.
Le 3 novembre au cinéma. Un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Je devrais dire bonjour Claude François, une perturbation s'en va, une autre revient ?
Oui, effectivement, c'est un véritable balai pour aujourd'hui. La perturbation qui s'attarde encore sur le nord-est est en train de s'évacuer vers l'Allemagne pour laisser place à un ciel plus changeant, mais toujours nuageux, avec quelques averses entre le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Lyonnais et le nord des Alpes. Nuages et éclaircies alternent aussi au nord de la Loire. Dans les terres, les averses sont plutôt rares, notamment entre la Picardie, le Bassin parisien et l'Orléanais. Mais le temps sera plus instable près des côtes de la Manche et sur le sud de la Bretagne, avec des averses et même des orages. Du Béarn au golfe du Lion et à la Provence, ainsi que sur l'est de la Corse, le ciel sera nettement plus dégagé et le soleil plus généreux cet après-midi. En revanche, entre le nord de l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et la Vendée, les pluies vont devenir de plus en plus régulières et même localement soutenues, voire orageuses, à l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Cette perturbation va s'engouffrer cet après-midi jusqu'à l'Auvergne, au Limousin et à la Sologne, avant de s'étirer vers un large quart nord-est ce soir et cette nuit. Et puis, vous l'avez peut-être ressenti ce matin, les températures continuent de perdre quelques degrés. Pour cet après-midi, prévoyez 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 13 à 20 degrés plus au sud, avec des pointes jusqu'à 21 degrés en Corse.
Sébastien Léas, Météo France, allez, si vous avez un coup de blues, arrêtez tout, écoutez notre invité du jour, il va vous donner une énergie de dingue.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et pourtant, il aurait toutes les raisons de se plaindre et de ne pas quitter sa chambre. Il a 21 ans, à l'âge de 7 ans, à cause d'une méningite, il a été amputé des 4 membres, mais bien vite, il trouve la voie pour vivre à fond, malgré tout. La natation. À 16 ans, il est médaillé d'argent au championnat d'Europe, puis participe aux Jeux paralympiques de Rio, puis l'argent encore au championnat du monde l'année suivante. À part ça, il tourne dans Plus belle la vie, le feuilleton de France 3. Il anime une chaîne YouTube aux plus de 50 000 abonnés. Il est suivi sur Instagram par 150 000 personnes. Il est mannequin pour une marque de cosmétiques. Et en ce mois de novembre, il va ajouter une ligne à ce CV fou. Il se lance dans la traversée du lac Titicaca à la nage entre Bolivie et Pérou, 3800 mètres d'altitude, le froid et le manque d'oxygène. Bonjour Théo Curin.
Bonjour.
Je lance un message aux auditeurs qui voudraient dialoguer avec vous, parler de vos exploits, du handicap, du regard des autres. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir. Vous partez quand ?
On part tout à l'heure. On a un avion vers 23h et ça y est, je suis hyper excité là.
Vous avez peur un peu ?
Je commence aussi un petit peu à flipper à côté de l'excitation. Il y a pas mal de stress qui commence à s'accumuler, mais c'est du bon stress. J'ai hâte d'y être quoi.
Alors vous partez avec Malia Metella et nageuse, hein, vice-championne olympique de natation en 2004 et l'aventurier Mathieu Wittwoot. Pourquoi ce choix du lac Titicaca ? C'est le côté symbolique de ce lac, le côté mythique ?
Sûrement oui, il y a de ça, mais aussi parce que je voulais faire un défi. Une expédition qui n'avait jamais été faite jusqu'à aujourd'hui. Et quand on a commencé à faire des recherches avec mon agent, on est tombé sur le lac Titicaca. Et en fait, le lac Titicaca, j'en avais entendu parler à l'école parce qu'il a un nom un petit peu rigolo.
Il fait rire les enfants.
Moi, ça me fait toujours autant rire. mais en tout cas, voilà, on a choisi le lac Titicaca pour ça et aussi parce qu'il mettait en avant des difficultés physiques assez exceptionnelles. Hein, parce qu'on va avoir du froid, on va avoir de l'altitude, on aura de la distance. Et c'est ça aussi qui rend complètement dingue ce défi. Ouais.
Et alors, pourquoi vous vous imposez ça, le manque d'oxygène, le froid, pourquoi vous imposez cette souffrance? Ça fait un an que vous préparez, vous devez en baver. Vous pourriez bouffer la vie, d'ailleurs vous le faites de mille manières, vous pourriez voyager, voir des copains. Pourquoi aller dans l'eau froide et à 4000 mètres d'altitude?
Et bah malgré ça, à côté, j'arrive à voir mes copains, tout ça, à avoir une vie entre guillemets normale, mais en fait j'essaye de chaque jour repousser mes limites. Moi, les objectifs, les défis, les rêves que j'essaye d'aller au bout parce que c'est ça qui me permet de me lever chaque matin, d'aller à l'entraînement et d'avoir cette hargne au quotidien. J'avoue que c'est un défi assez assez fou et que c'est la première fois que je me lance un défi aussi balèze, mais on trouvera encore des choses complètement dingues à faire plus tard aussi.
C'est l'exploit qui fait se sentir vivant.
Ouais, je pense que c'est ça, c'est très court hein. Franchement, moi j'ai pas fait encore beaucoup de défis et de compétitions, mais c'est vrai que quand je touchais le mur en compétition ou quand je franchis une ligne d'arrivée, c'est une sensation mais indescriptible qui vaut je pense toutes les drogues les plus dur au monde. C'est quelque chose de vraiment dingue qu'on ressent au fond de soi. Et je pense que quand on arrivera à de l'autre côté du lac, du côté péruvien, ça sera, je pense, une overdose d'amour, d'émotion complètement dingue.
Alors, question tout de suite de Yannick sur l'appli. Sachant qu'il y a une dimension écolo à votre expédition à tous les trois, vous allez nager en tirant un radeau de 500 kilos alternativement. Le radeau, il est fait en matériaux recyclés avec des panneaux solaires. Je vais vous interroger là-dessus. d'abord cette question sur l'appli. Le lac Titicaca est très pollué, ça ne vous fait pas peur?
Si, évidemment, franchement, on a fait pas mal de tests avant d'aller nager là-bas. On s'est fait vacciner aussi contre je sais plus quoi.
Ouais.
Mais forcément, c'est un lac qui est de plus en plus pollué. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce lac, parce qu'on s'est dit, au-delà de notre défi sportif, on peut peut-être aider la population locale. Donc, on a récolté de l'argent pour pouvoir la donner à une association qui lutte contre la pollution là-bas. Mais voilà, franchement, on s'est préparé pour ça. Une des questions qui a été difficile au début de l'écriture de cette expédition, c'est on peut pas ramener toute l'eau qu'on va boire pendant l'expédition, comme on est en totale autonomie. Du coup, il va falloir filtrer l'eau et il a fallu trouver un filtre vraiment balèze pour pouvoir filtrer cette eau qui est pas potable normalement.
Ouais. Pourquoi cette volonté de faire avec des matériaux de recyclage, d'être en totale autonomie? Quel message ça transmet?
En fait, au départ, moi, je voulais ajouter à cette expédition un côté environnemental, mais moi, j'ai pas suffisamment de connaissances dans ce domaine-là, à part trier dans mon appart ou chez mes parents, c'est tout ce que je fais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à Mathieu, l'éco-aventurier, de nous rejoindre dans l'équipe, parce que lui, il a toutes ces connaissances-là sur le côté écologique. Et du coup, on s'est dit, on va aller au bout de ce côté-là, et on s'est dit, par exemple, le radeau, c'est quand même, on va dire, c'est vraiment l'image de notre défi. Ouais. Et du coup, on s'est dit, on va le faire qu'à base de matériaux recyclables ou recyclés. Donc, on a récupéré un catamaran qui avait fait les Jeux Olympiques d'Athènes, qui avait aussi servi à une autre expédition pour les gars de Plastic Odyssey. Donc là, il est déjà à sa troisième vie et il aura une quatrième vie parce qu'on va le laisser au Pérou après notre expédition.
D'accord.
Il va faire des espèces de ramassage de déchets. Donc voilà, c'est ça. En fait, on essaye d'aller au bout de notre sujet sur l'écologie. Un autre exemple encore pour finir, c'est la nourriture lyophilisée qu'on va manger pendant l'expédition. Et c'est le chef Juan Arbelaez qui a en fait préparé des repas en vrac et qui a mis les repas dans des espèces de sachets réutilisables en silicone.
Et qu'on voit avec vous sur votre chaîne YouTube. Avant d'aller au standard, question cash, parce que justement cette chaîne YouTube, elle est cash et je voudrais qu'on en parle. Comment on nage sans jambes ni bras? Alors je précise que vous êtes amputé en dessous du coude et en dessous du genou. Alors j'ai vu des images sur YouTube, vous avez à la place des mains ces plaquettes que les nageurs connaissent bien qui servent à pousser dans l'eau à l'entraînement. Mais quoi, on serre davantage que les autres des épaules, du dos, du ventre? Comment ça se passe?
Exactement, alors on essaye tout simplement de trouver des solutions pour pas se noyer dans un premier temps. Et puis ensuite on essaye de rajouter un petit peu de propulsion et de vitesse. Donc ça, c'est un travail qui a été très long. Moi je me suis entraîné 8 ans avec le même coach à Vichy, avec Fabien Maltré. C'est avec lui qu'on a essayé de trouver des astuces, des techniques pour pouvoir nager longtemps et vite.
Ouais.
Et du coup, quand je faisais de la compétition, j'avais pas ces plaquettes-là. Mais quand on a créé l'expédition Titicaca, on s'est dit que rajouter des plaquettes au niveau de mes bras, ça allait me permettre de pouvoir tracter le radeau de 500 kilos un peu plus facilement, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, ça demande quand même beaucoup, beaucoup plus de force au niveau des épaules. J'ai été souvent blessé étant plus jeune à cause de ça, parce que je compense énormément avec les épaules, avec évidemment le tronc, les abdominaux, et j'utilise pas du tout mes jambes. Donc on essaye vraiment de tourner les bras vite et pendant très longtemps.
Vous allez nager combien de kilomètres par jour?
Environ 12-13 par jour à 3. On va se relayer, ça dépendra de l'état de forme de chacun et de la météo aussi quotidienne.
Allez, le standard, Guilhem est avec nous. Bonjour Guilhem.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Je précise que vous êtes malvoyant, j'ai ça sur ma petite fiche.
Oui, exactement. Je suis je m'appelle Guilhem et j'ai 20 ans, je suis malvoyant et moi je suis Théo depuis Rio 2016.
Waouh.
C'est quand j'ai vu en 2016 aux Paralympiques Théo Curin, 16 ans, en plus j'avais 16 ans à l'époque, amputé 4 membres et tout ce parcours extraordinaire, je me suis dit mais en fait il me faut la technique de Théo, il me faut le mental de Théo pour réussir à surmonter ce handicap, parce que j'arrive maintenant à peu près à le surmonter et à me dire c'est une force, mais d'un autre côté Théo, je me permets de te tutoyer parce que du coup j'ai 20 ans. Du coup je me dis quand même, Théo, t'es une personne que j'aimerais énormément rencontrer. Parce que comment tu fais, comment t'as fait pour surmonter ce handicap et pour te dire je suis handicapé, mais c'est pas grave. Je veux aller au bout de mes rêves et au bout de mes délires et j'y arriverai, même si on me dit t'y arriveras pas.
Waouh, déjà merci pour ton témoignage, ça me touche beaucoup. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que bon là, tu vois, je suis à fond, j'ai toujours la banane, etc. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps, comme toi, avant d'accepter mon handicap. Après, moi, j'ai eu une chance dans ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été super bien entouré. C'est-à-dire que j'avais toujours mes deux parents, j'avais un grand-père et une grande sœur aussi très à l'écoute, et qui, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont vraiment aidé à accepter petit à petit le handicap. Et aussi, bah tu sais, le sport m'a vraiment aidé énormément à accepter surtout mon schéma corporel. J'avais beaucoup de mal avec mes cicatrices, avec le regard des autres. Tu parles peut-être aussi un peu de ça, Guilhem, mais moi je souffrais énormément du regard des autres. Et on va dire que la natation m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi, parce que bah quand j'allais refaire les courses avec mes parents, etc., dans les supermarchés, j'essayais de cacher mes bras, de cacher mes jambes, etc., alors que mon handicap, il est quand même difficile de le dissimuler, mais j'essayais de le cacher au maximum. Et en fait, la natation m'a permis en fait à accepter petit à petit ce schéma corporel, parce que quand on est en maillot de bain, on peut plus trop se cacher. Ouais. Donc voilà, c'est un travail qui a mis beaucoup de temps, mais je pense que j'ai réussi grâce à mon entourage, grâce au sport, et surtout voilà. Tu m'as dit tout à l'heure que voilà, il y a des gens qui nous disent parfois tu n'y arriveras jamais, etc. Ben moi, j'utilise ce genre de témoignage, ce genre de phrase pour me motiver encore plus. C'est-à-dire, ok, lui il croit pas en moi, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, je lui montrerai qu'il n'a pas raison. Et c'est comme ça que je me motive.
Je crois que Philippe Croizon a joué un rôle clé. C'est lui qui vous a incité à vous mettre à la natation. Philippe Croizon qui a traversé la Manche. Il a utilisé quel mot pour vous dire « c'est dans l'eau que tu vas trouver ton chemin » ?
En fait, il m'a pas forcé à aller dans l'eau. Lui, Philippe, il m'a aidé énormément à accepter aussi le regard des autres, hein, ouais. Parce qu'il m'a dit justement une phrase. Il m'a dit : « Et toi, qu'est-ce que tu fais avant de tomber malade quand tu vois une personne handicapée dans la rue ?» Et c'est à partir de là que je me suis dit : « Ah ouais, en fait, il a raison. C'est humain, en fait, quand les gens nous regardent dans la rue. » À partir de là, j'ai réussi à faire abstraction du regard des autres. Et en fait, c'est moi tout seul qui me suis mis un peu la pression quand j'ai vu Philippe nager. Je me suis dit : « Attends, si lui il arrive alors qu'il a pas de bras, pas de jambes comme moi, moi j'ai pas d'excuses. Il faut que je le fasse aussi. » Et je voulais prouver à mon entourage, à mes parents, justement. Et à ma grande sœur, que malgré ce qui venait de nous arriver, j'étais capable de faire de belles choses, et ça a commencé comme ça.
Alors la chaîne YouTube, je voudrais qu'on en parle. C'est cash, c'est joyeux. Le principe, vous prenez quelqu'un d'un tout autre domaine. Alors on parlait d'un chef cuisinier, mais il y a aussi des spécialistes de trottinettes. Enfin, il y a absolument tout. Et vous essayez de faire, malgré votre handicap, ce qu'il fait lui. Et en échange, lui ou elle se met dans la peau d'une personne handicapée. J'ai pas dit de bêtises ?
Non, c'est exactement ça.
Et encore une fois, c'est cash. Par exemple, la trottinette, vous scotchez la trottinette. Le chef cuistot, eh ben, vous coupez des légumes malgré votre handicap. Le côté direct cash, vous le vouliez comme ça, et en plus c'est joyeux, c'est pas du tout.
Mais moi le côté direct et cash, je trouve que c'est il y a que ça de vrai, et il y a que ça qui fait vraiment avancer les choses. Donc c'est vrai que cette chaîne YouTube, bon là j'ai plus trop fait de vidéos ces derniers temps parce que j'avais tout simplement pas le temps, mais peut-être on va en refaire l'année prochaine. Mais c'est vrai que je trouvais ça assez cool, justement, encore une fois, de pouvoir casser les codes en rencontrant des personnalités qui venaient de différents domaines, que moi aussi j'étais capable de cuisiner, de faire de la trottinette ou même de la moto acrobatique. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes-là, et aussi de voir les personnes-là galérer, parce que quand j'ai vu Juan Arbeláez couper des carottes avec ses deux coudes, on va dire que c'était pas joli, mais c'est vrai que c'était des chouettes moments, et je trouve que les réseaux sociaux, même en général, c'est un bel outil pour faire changer un peu les a priori.
Il y a plein de messages pour vous sur l'appli. Jean-Michel, on attend votre invité pour une traversée Corse-Continent. Bravo Théo, félicitations, vous avez bien raison de pousser les limites, super, merci. Et Anne au standard. Bonjour Anne.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Théo.
Bonjour.
Écoutez, je ne sais quoi vous dire après tous ces témoignages. Vous êtes absolument extraordinaire. Comment allez-vous faire ? Vous avez beau expliquer vos techniques diverses et variées. Moi, je me demande comment vous trouvez un tel mental pour intervenir et sur un lac quand même qui est haut, qui est frais. Hein ?
Oui.
Moi, j'ai eu la chance avec mon époux de naviguer sur ce lac. C'est pas très vieux, il y a 4-5 ans, mais effectivement, vous le savez puisque vous y êtes certainement allé, il est très pollué. Oui. Alors, ben écoutez, moi je n'ai pas de mots, vous avez beau dire que vous êtes bien entouré par votre famille, Dieu merci, hein, vous avez beaucoup de chance parce que toutes les familles ne sont pas comme ça, mais je trouve votre défi absolument fantastique, mais vraiment.
Merci Anne, merci pour votre témoignage.
Merci beaucoup Anne.
Il y a des moments où vous avez des coups de blues, des coups de mou, des coups de doute ?
Oui, comme tout le monde. Ouais, c'est vrai que là, on voit le sourire et tout en normal. Comme un jour, comme aujourd'hui, on est forcément bien énergique.
Mais bah vous partez à 23h
voilà,
tout à l'heure.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il faut que je sois en forme. Non, non, forcément, des fois, il y a des coups de moins bien. Des fois, je me pose un milliard de questions. Des fois, je suis triste. Des fois, je pleure. Mais encore une fois, j'ai un entourage en béton autour de moi qui me permet de redresser la barre et de se retourner encore une fois sur les objectifs parce que c'est ça qui me fait tenir.
Ouais. Ça commence le 10 novembre. Ça devrait durer une dizaine de jours. Et évidemment, vous serez à Paris 2024.
Et ben, je serai à Paris 2024 d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si je serai nageur, mais en tout cas, je serai là-bas. Ouais.
Merci beaucoup Théo Curin d'être passé dans les studios de France Inter et bonne chance pour ce défi. Décollage tout à l'heure à 23h.
Merci
à bientôt.
Beaucoup.
13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
En pleine dispute franco-britannique sur la pêche, Trafalgar, Aboukir et quelques victoires?
Ben oui, les guerres maritimes entre la France et l'Angleterre. Longue histoire.
C'est dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton dans un tiers-lieu près de Bordeaux. Ces tiers-lieux où l'on crée, où l'on échange, où des petites communes trouvent un nouveau souffle. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier, j'articule.
Bonjour Bruno Duvic.
En ce 2 novembre, journée des défunts, la romancière Dorothée Caratini est à votre micro. Elle vient de publier « Traverser la foule ». C'est son premier roman sur le deuil, la reconstruction. Elle, dont le mari a mis fin à ses jours il y a 4 ans, peu avant Noël, en la laissant seule avec deux petites filles.
L'aînée avait 2 ans et demi, la cadette 5 mois. Et c'est notamment pour elle que Dorothée Caratini a écrit cette histoire, le récit d'une disparition, suicide sans explication, corps pendu dans la salle à manger familiale. Le récit sans pathos d'une sidération, le récit parfois drôle d'une incompréhension et d'une bouleversante et furieuse envie de continuer à vivre.
Quand le père de mes filles est décédé, je me suis retrouvée à devoir gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse et des problématiques auxquelles j'avais jamais pensé. Et il y a eu un moment où j'avais besoin de faire autre chose. Et la seule chose que je savais faire, c'était écrire. Alors j'ai fait un blog à l'ancienne, un journal de bord de mon deuil. Et petit à petit, ce blog est devenu un projet littéraire, tout en étant un outil thérapeutique quand même. Et c'est aussi pour mes filles que je l'ai écrit.
C'est-à-dire que le livre raconte qui était leur père.
Exactement.
À quoi ressemblait votre amour.
Exactement. Comment on s'est rencontrés. C'est un témoignage, c'est ça, un souvenir. Livre souvenir, il manque que des photos. Tomorrow you'll see it through. The clouded out disguises put you in the room. And though I wandered out alone.
Et il y a votre colère aussi.
Et la colère.
Y compris contre lui, d'avoir fait le choix de se donner la mort.
Oui, il y a beaucoup de colère. Ça m'a permis d'expulser cette colère. Je me sentais plus sereine après. Et moins, au fur et à mesure, moins en colère contre lui.
Mais il en reste.
Il reste de la colère, il reste de la tristesse. Heureusement, j'ai deux petites filles qui font que j'ai aussi beaucoup de joie à la maison.
Et puis reste la musique.
Il y a beaucoup de musique dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup de musique dans ma vie. Il y a des chansons qui reviennent comme ça dans nos vies en boomerang. J'ai une playlist que j'use et que j'use. C'est des morceaux doudous.
Et c'est un titre de l'américain Sufjan Stevens qu'a choisi Dorothée Caratini, All Delighted People.
Chanson de 11 minutes et demie. Paru en 2010 sur l'album du même nom.
Je crois que c'est ma grande sœur qui me l'a fait écouter à l'époque où c'est sorti. Je connaissais déjà Sufjan Stevens et pour moi, c'est une bande originale. Ça pourrait être un court-métrage ou ma vie en 11 minutes. Il y a de la nostalgie, il y a des envolées lyriques, il y a des chœurs, il y a de la guitare, il y a de l'énergie, c'est joyeux aussi. J'adore cette chanson pour ça parce qu'elle est à la fois flamboyante et douce. And the people bowed and prayed.
Elle provoque quoi chez vous, cette chanson?
Les petits poils là qui se dressent sur les, sur les bras quand je l'écoute. Puis j'ai toujours envie un peu de courir et de danser dans la rue. Alors je ne le fais pas, mais dans ma tête, je fais une comédie musicale. J'ai l'impression qu'elle envahit l'espace, en fait, cette chanson. And the people bowed and prayed. Oh, I love you a lot. from the top of my heart. Et en plus, elle m'a accompagnée lorsque j'ai accouché de ma première fille, Abigail, parce que j'ai eu la chance de pouvoir amener des chansons. Et Abigail est née sur All Delighted People de Sufjan Stevens. Alors, c'est un souvenir merveilleux.
Donc, c'est une chanson pour parler de la vie, finalement.
Exactement. C'est une chanson pour parler de la vie. J'aime bien parce qu'elle a un côté mystique un peu dans les paroles. Ça parle de la nature, des hommes, de la force d'être ensemble. Et j'adore cette idée que ma fille est née là-dessus, en fait.
C'est une chanson doudou ?
Ah oui, c'est une chanson doudou, oui. C'est une des plus belles chansons doudou que j'aime écouter.
All Delighted People, Sufjan Stevens. C'était donc Frédéric, le choix de l'autrice Dorothée Caratini.
Dont le tout premier livre, Traverser la foule, vient donc de paraître aux éditions Bouquin.
Le feuilleton une semaine à Cœur de Bastide. C'est un de ces 2500 tiers-lieux qui existent en France, ces espaces que partagent des associations, des créateurs d'entreprises, des citoyens qui viennent y chercher une formation, des échanges, des moments de convivialité. Ceux installés à la campagne jouent un rôle important de redynamisation des territoires. Et ici, à Sainte-Foy-la-Grande, 2600 habitants, pas très loin de Bordeaux, le tiers-lieu a été créé il y a une dizaine d'années. Il accompagne ceux qui veulent créer leur propre entreprise. C'est une façon de relancer l'économie locale. C'est l'épisode 2 de ce feuilleton, signé Yann Gallic.
Je suis une couturière dans le domaine du wax. Je confectionne des tenues en tissu africain.
Et ici, c'est votre boutique ?
Oui, c'est Cœur de Bastide qui m'a permis d'avoir un box dans lequel je peux présenter mon travail.
Sur les porte-vêtements, il y a des robes très colorées, des chemises. Vous faites des jupes aussi.
Oui, je fais tout. Je fais enfant, je fais homme, je fais dame. Je confectionne des tenues sur mesure. Je fais des prêt-à-porter. C'est des choses colorées.
Vous, Alice, vous êtes couturière de formation ?
Oui, de formation, je suis couturière.
Et vous êtes de quelle origine ?
Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Ça fait environ 8 ans que je suis en France et à Cœur de Bastide, ils m'ont accueilli ici, ça fait 3 ans. Et c'est grâce à eux que j'ai pu présenter mon travail. J'organise des défilés. Le premier défilé a eu lieu ici à Cœur de Bastide en 2019.
Avoir un lieu comme celui-là qui permet d'exposer votre travail, ça vous a amené des clients ?
Oui, ça m'a amené beaucoup de clients. Parce que je suis arrivée dans la région, comme je vous le disais, je cousais chez moi à la maison, mais j'avais pas comment vendre. C'est Cœur de Bastide qui m'a aidée à monter cette petite entreprise que j'espère dans l'avenir pouvoir avoir une boutique, un local tout en moi où je peux avoir des apprentis à qui transmettre parce que j'ai un savoir-faire qui est particulier.
Ce genre de tiers-lieu, ça peut aider les petits entrepreneurs, les petites entrepreneuses comme vous ?
Exactement, des personnes qui ont des projets, qui ont envie de réaliser ces projets. Moi, j'avais la vision, j'avais le projet, j'avais le savoir-faire, mais je ne savais pas comment administrativement m'y prendre. Le tiers-lieu m'a aidé à monter l'entreprise, le dossier administratif. C'est vraiment eux qui ont tout fait pour moi.
Je m'appelle Serge Brock. J'ai créé deux associations ici depuis un an et demi. Une petite maison d'édition. Et une deuxième qui est plus commerciale ou industrielle à venir, qui s'appelle Unigaïa, qui va à terme se transformer en société de l'économie sociale et solidaire et donc générer une activité de production, de création d'emplois au niveau local.
L'objet de cette société, sera quoi ?
En ce qui me concerne, je suis un spécialiste de la purification de l'eau. C'est mon métier et ma passion. Suite au Covid, nous avons porté notre focus sur les personnes âgées qui sont souvent isolées à domicile. Nous avons pensé à l'intérêt de créer des mini-unités de production locales pour produire une eau à partir des réseaux, mais de bien meilleure qualité, avec conditionnement dans des bouteilles de verre et livraison à domicile avec des véhicules évidemment électriques et écologiques.
Serge Brock, selon vous, un tiers-lieu comme celui-là peut aussi créer une petite économie locale ?
Oui, alors c'est le but, c'est-à-dire qu'autour de cette petite unité de production, on peut fédérer un certain nombre d'autres producteurs, par exemple des restaurateurs qui font de la livraison à domicile dans des contenants verts, des producteurs locaux de bière, même de vin, pourquoi pas. Donc c'est vraiment un modèle local où on relocalise une production pour précisément créer des emplois. Parce que c'est le gros problème ici, c'est effectivement le nombre de jeunes chômeurs qu'il faut essayer de mettre à l'emploi.
Une semaine dans ce tiers-lieu cœur de Bastide, de feuilleton de Yann Gallic réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, les relations franco-britanniques sur la mer dans le vif de l'histoire aujourd'hui. Le débat sur les droits de pêche n'est pas toujours clos. On se donne 48 heures de répit. Dans cette affaire, on ne peut pas oublier les représentations que les deux pays ont de leur espace maritime.
La ministre de la mer, Annick Girardin, elle est née à Saint-Malo. Elle va sur les remparts de Saint-Malo. Une grande statue du corsaire surcouffe le figurait commandant l'assaut, le bras levé en direction des îles anglo-normandes, avec leurs pêcheries, et de l'Angleterre, l'ennemi héréditaire. Et l'axe de la statue n'a été déplacé qu'après la Seconde Guerre. Depuis au moins le XVIIe siècle, l'Angleterre est vue en France comme le pays qui ne tolère pas que nous soyons aussi une puissance maritime, comme si on n'avait pas de côte, comme si on n'avait pas de port, comme si on n'avait pas de colonies autrefois. Et dès le XVIIIe, la France a réagi en se présentant non seulement comme un pays qui protège ses intérêts, mais comme celui qui défendait auprès des Espagnols et des Hollandais, notamment, une liberté des mers mise à mal par la pieuvre britannique. Consciemment ou non, le président de la République reprend cette posture quand il dit « En matière de pêche, je suis le porte-parole non seulement de la France, mais de l'Europe. »
Oui, mais la vérité oblige à dire que depuis le XVIIe, la marine anglaise surclasse la française.
Oui, mais enfin, Monsieur Duvic, avec un moment d'exception, autour de 1680, quand la nôtre devient, pour une courte période, la première du monde, et avec des moments de rattrapage. Louis XVI, très jeune, décide de reconnaître l'indépendance des États-Unis. Il en assume les conséquences, la guerre qui va suivre avec Londres, et au risque d'un grave déficit, il quadruple le budget de la marine entre 1774 et 1778 et autres périodes de rattrapage, même quadruplement sous le consulat de Bonaparte, 1800-1804. C'est vrai, l'avantage reste à l'Angleterre, la révolution industrielle dans la métallurgie n'y est pas pour rien. Les canons anglais, ces doublures de coque en cuivre, eh ben c'est incomparable.
Cela dit, les annales de la marine nationale conservent aussi le souvenir de bien des exploits.
Eh ben vous considérez l'odonymie, vous savez les noms de rues,
ah oui,
et d'avenues à oui, Paris. Oui. Suffren. En dépit de son caractère épouvantable, il a recueilli l'hommage des Anglais eux-mêmes pour son parcours dans leur possession des Indes. L'amiral de Grasse, il mérite sa place dans le 16e arrondissement. Sa campagne de 1781 aux États-Unis a rendu possible la victoire décisive de Yorktown. Surcouffe n'a pas seulement sa statue à Saint-Malo, mais sa voix dans la capitale. Il incarne un autre aspect spectaculaire de la guerre maritime, la guerre de course. Surcouffe n'a jamais voulu intégrer la marine nationale, mais dans les rangs de celle-ci, on pouvait trouver des tempéraments de corsaires comme le sien, la Motte Piquet, l'avenue de la Motte Piquet. Ouais. En une journée, eh ben, il a capturé 16 bateaux et demi.
Le choix de la course est un choix contraint, faute de pouvoir assurer un choc frontal.
Oui, mais enfin, la France a plus d'une fois pensé à envahir l'Angleterre, monsieur Duvic. Les services secrets de Versailles recommandait ce choix à Louis XVI en 1774. La prudence a commandé d'attendre l'alliance avec les Espagnols. En 1778, une flotte franco-espagnole s'est présentée face à Plymouth. Les vents mauvais et le scorbut l'ont éloigné de la Manche, c'est vrai. En 1803, Bonaparte a repris le projet en le mettant en scène de façon spectaculaire au camp de Boulogne. Et plus tard, il a préféré, c'est vrai, le suspendre dès avant Trafalgar.
Ah, Trafalgar, la mémoire des guerres maritimes franco-anglaises est marquée de nombreux désastres.
Oui, mais peut-être, mais transfiguré, monsieur Duvic. Prenons le cas d'Aboukir.
Oui.
1798, eh ben, Bonaparte s'est enfoncé à l'intérieur de l'Égypte. On ne s'inquiétait pas assez du devenir de l'escadre qu'il avait amené sur place. Les Anglais l'ont attaqué au mouillage dans la baie d'Aboukir. Ça a été une catastrophe. Eh ben, il reste d'Aboukir un autre souvenir. Celui de Du Petit Thouars, une rue à Paris dans le 3e arrondissement. Sur son poste de commandement du tonnant, il a été grièvement blessé. Il ordonne qu'on lui ampute un bras. Certains disent aussi les deux jambes. Sans doute exagère-t-il. En tout cas, il demande ensuite qu'on le place dans un tonneau rempli de son. Ainsi, l'hémorragie est-elle ralentie et il continue de donner des ordres. Le dernier saura clouer le pavillon tricolore, comme ça vous ne pourrez pas l'amener. Citation parfaitement exacte, comme toutes celles que nous faisons ici, Bruno.
Oui, presque garantie. Hier, j'ai confondu Montaigne et Pascal. Pour avoir les idées claires, je m'engage à réécouter en podcast ou sur le site de France Inter un été avec Montaigne et un été avec Pascal qui nous ont été offerts ces dernières années par Antoine Compagnon. Merci Jean Lebrun. Dans un instant, vous retrouvez Mathieu Vidard, La Terre au carré, et cette question, est-ce bientôt la fin du pétrole?